voix nue. Toute cette semaine, Delphine Jaffé rencontre Éric De Luca. Ce soir, ouvrir sa bouche pour le muet.
Éric De Luca, bonsoir. Hier soir, nous avons évoqué avec vous votre expérience africaine de bénévolat. Vous êtes parti aussi très souvent en Bosnie à partir de 93. Alors là, qu'est-ce qui préside pour vous à ce départ? Comment ça se passe? Comment vous choisissez de partir en Bosnie?
Non, d'abord, c'était le retour de la guerre en Europe. En 92, c'était déjà commencé la guerre, on est revenu. La Yougoslavie allait se détruire et se déchirer et se entretuer entre ethnies, peuples, gens qui étaient amis jusqu'au jour avant. Donc c'était le retour de la guerre en Europe et moi je fais partie de la première génération de l'histoire européenne qui à 20 ans n'a pas été envoyée dans une guerre. Nous avons sauté le tour parce que la guerre précédente, la Deuxième Guerre mondiale, avait été si catastrophique que l'Europe avait décidé de se défendre du retour de la guerre, de l'empêcher en toute manière. Je suis un européiste convaincu et enthousiaste parce que j'ai de la gratitude à l'Europe pour cette démarche qui a bloqué le retour de guerre en Europe. Mais il y avait le retour de la guerre en Europe. Et donc, avec beaucoup d'autres bénévoles, on a commencé à faire des voyages aller-retour. Je faisais simplement le chauffeur de certains convois d'aide, organisés par des catholiques. Et le début a été la destruction du vieux pont de Mostar. C'était un vieux pont d'époque bâti par les Turcs. C'était un arc blanc, de pierre blanche qui réunissait les deux rivages de Mostar Est et Ouest. Est était le côté musulman et Ouest était le côté chrétien. Et c'était les Croates du côté chrétien qui visaient de détruire le vieux pont. Il avait déjà détruit tous les autres ponts de Mostar sur la Neretva. Et du côté Est, ils avaient essayé de le défendre avec des grands gomme de camion. Il avait essayé de le défendre comme ça, mais avec des coups de grenade, le pont a été coulé. Et donc j'avais écrit un adieu à ce vieux pont d'Europe. Pour moi, le pont, c'est l'acte de construction le plus cordial qui existe. C'est le contraire du mur, le pont. Le mur sert à séparer et le pont pour à réunir. Réunir les rives, les rivages et donc les rivalités, parce que les rivalités viennent des rivages opposés. Et donc cet acte d'union a été détruit. Et je suis allé, j'avais écrit sur un journal catholique cette histoire. Des catholiques, des bénévoles catholiques qui faisaient déjà ces voyages, ils m'ont invité. Donc pour moi, il y a des invitations qui sont plus exigeantes que les ordres même. Par contre, il y a des ordres qu'on peut prendre comme des invitations, renoncer et se refuser. Mais là, j'ai obéi. Je suis allé la première fois et j'ai continué à aller avec eux parce qu'ils étaient, bien qu'ils étaient catholiques, ils avaient versé la grande partie de leur soutien, de leur aide sur le côté musulman parce que c'était le côté le plus faible, le plus démuni. Donc, dans le premier voyage, on a amené un groupe électrogène dans un hôpital de Mostar Est, un hôpital pour dire comme ça, mais il n'était qu'un sous-escalier, parce que les étages étaient démolis par les bombardements, et sous un escalier où on recousait, à la lumière de la chandelle, on recousait des blessures dues aux grenades. Et on recousait, on ne cherchait pas d'extraire les morceaux, tout simplement des actes de secours immédiat. Et donc nous avons amené le premier groupe électrogène qui était interdit parce qu'il y avait l'embargo sur la Bosnie. Nous étions des contrebandiers tout en les cachant dans les camions sous les grandes quantités de nourriture et choses comme ça. Et comme ça, un des premiers voyages, on a amené la lumière dans ce petit hôpital de Mostar Est. Ça me faisait venir à l'esprit le fait que l'une des premières actions politiques que j'ai faites, c'était celui d'amener de l'électricité dans un groupe de baraques, dans une favela à côté, dans la banlieue romaine, des années 70. Et j'ai continué à aller avec eux. J'ai fait, pendant des années, entre le 93 et le 97, quelque chose comme 30 ou 40. Plus que 30, moins que 40, j'ai pas tenu le compte exact de ces allers-retours. Et ça durait 4-5 jours. On conduisait par des dizaines et dizaines d'heures consécutives sur des pistes détruites, mais il fallait avoir des petits camions, parce que les gros camions étaient impossibles de passer sur ces routes. Il y avait une rue que nous l'appelions la rue des Dauphins, parce que c'était une rue construite par l'ONU. Mais c'était une rue impossible. Mmh. Il fallait avoir des moyens différents de ceux que nous avions. Mais nous, quand même, nous faisions cet aller-retour. Mais on employait des dizaines d'heures de conduite. C'est là que je suis devenu un peu camionniste. Donc j'ai appris à conduire pour très longtemps sans me fatiguer.
Sans dormir,
mais sans ressentir de la fatigue. Donc c'était une expérience de fraternité.
Dans votre conversation avec Nivès, donc sur les traces de Nivès, vous dites que c'est la poésie en fait qui vous a aidé pendant cette période. Vous êtes plongé dans certains poèmes que vous vous répétiez presque comme des mantras.
Non, mais ça, c'est un autre moment. Quand j'ai terminé de faire ces allers-retours, avec le retour de la paix, donc avec la fin de le siège de Sarajevo, en 97. Mais quand, dans le 99, quand l'OTAN a commencé à bombarder des villes en Yougoslavie, donc là, j'ai un sentiment complètement différent. C'était pas question de fraternité, c'était une question de colère. Moi, je considère le bombardement d'une ville l'acte de terrorisme par excellence. L'acte de terrorisme, c'est qu'il veut bombarder des personnes prises chez elles, dans leur activité quotidienne, mais avec l'intention de bombarder exactement un centre d'habitation, où il y a la majeure concentration d'habitants. Le bombardement aérien d'une ville. Et comme ça, j'étais furieux contre le bombardement aérien d'une ville, cet acte de terrorisme organisé par mon pays. Je viens d'une ville qui a été la plus bombardée de l'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le son de la sirène d'alarme aérienne est le son qui est resté coincé dans le cauchemar de ma mère pour toutes les nuits de sa vie. Elle s'est réveillée toutes les nuits de sa vie avec ce son de la sirène de l'alarme aérienne. Et donc, pour moi, cette histoire que j'avais entendue quand j'étais gamin, avait marqué mes premiers sentiments de relation, de réponse face au monde autour de moi. Et donc le retour de bombarder une ville, c'était un acte insupportable pour moi. Donc j'ai déserté mon pays qui se prêtait à être tapis roulant des bombardiers. Et je suis allé à Belgrade. J'ai demandé à l'ambassade yougoslave à l'époque, au début des bombardements, de me permettre un passage. Ils m'ont fait attendre un mois, je pensais que jamais ils m'auront accepté. Après un mois, c'était la fin d'avril, je suis allé, ils m'ont donné le permis, et je suis parti tout de suite. Je suis allé en Hongrie, et je suis entré en Yougoslavie à travers un service de passage où certains Serbes organisaient le retour des gens qui voulaient être rentrés en Yougoslavie. Et donc je suis arrivé à Belgrade une nuit de fin d'avril et j'ai entendu tout de suite ma première son de la sirène d'alarme. Je l'ai reconnu. C'était déjà planté dans moi. Je l'avais entendu peut-être même dans le ventre de ma mère, dans ces cauchemars d'après-guerre. Et comme ça, je me suis trouvé en paix avec moi-même. Ce son de la sirène de l'armérienne m'a donné de la paix. J'étais là exactement, ça veut dire la paix, m'avait ôté la colère. je l'appelle le sentiment de paix ou de soulagement, mais c'était le fait qu'on avait extrait la brûlure de la colère. On avait apaisé la brûlure de la colère, le son de la sirène de la Lermerian. Mais cette nuit, je suis allé directement avec mon bagage sur un pont, sur la Saba, un des ponts menacés par le bombardement aérien, où j'avais vu que dans des nuits précédentes, il y avait une assemblée de citoyens de Belgrade qui restaient sur le pont pour empêcher de le bombarder. Je suis allé sur ce pont, il n'y avait personne. Et j'ai marché pour quelques heures avant et arrière sur ce pont, comme une sentinelle ivre, sans aucun sens. Mais c'était mon début de présence à Belgrade. Je n'ai pas été avec cette ville. Je n'ai pas eu ce sentiment d'appartenance et donc de fraternité. J'étais contre le bombardement aérien de cette ville et c'est pour ça que j'étais dans Belgrade, pas avec. Je suis resté seul pendant ces jours-là. J'habitais à l'huitième étage d'un hôtel qui s'appelle encore, je crois, Moskva. Je n'ai jamais plus revenu à Belgrade. Mais j'ai passé mes nuits à entendre les bruits les plus absurdes de ma vie. Je n'allais pas dans les refuges antiaériens parce que je n'étais pas un citoyen de Belgrade. J'étais là pour ça, pour être dans cette ville, pas pour être qu'avec ces citoyens. J'avais seulement une adresse. C'était la veuve de Danilo Kiš, un écrivain serbe. C'est lui qui devait recevoir le prix Nobel et qui venait de mourir avant l'assignation, et c'est pour ça qu'ils avaient donné le prix Nobel à Brodsky. La veuve de Danilo Kiš, je l'ai rencontré parfois et on s'est tenu un peu de compagnie. Mais non, je ne connaissais personne. J'allais le matin dans le parc Kalemegdan, qui est un parc qui est à la confluence du Danube et de la Saba. C'est d'énormes fleuves européens qui se croisent à Belgrade. J'étais là avec à marcher ou à regarder des parties d'échecs avec des vieux qui jouaient très bien sur leur échiquier et qui ne bougeaient absolument pas quand il y avait commencé les bombardements. Ils restaient là à jouer aux échecs, donc moi aussi avec eux, je regardais et j'ai passé comme ça des nuits et des jours dans la ville de Belgrade, dans le 99. C'est pour ça que j'avais des vers qui me restaient dans la tête. Des vers que j'avais amenés de Dylan Thomas, qui parlait d'un bombardement aérien sur la ville de Londres. Et des vers d'un poète allemand qui s'appelle Hölderlin, et qui disait que là où il y a le danger, va s'accroître aussi ce que sauve. C'était un vers qui était plein d'espoir, évidemment, mais qui me tenait compagnie dans la tête. Et à la fin du tout, il y avait le vers avec lequel j'ai conclu ma présence à Belgrade, était un vers de Pablo Neruda, avec lequel il termine son chant dédié au Chili. Et il dit « Je ne suis venu ici pour résoudre rien. Je suis venu ici pour chanter ou pour te faire chanter avec moi. Yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo », disait Neruda. Si, si, les vers m'ont tenu toujours une belle compagnie. C'est bien de se munir, de se procurer des vers pour la tête, qui on peut les mâcher pendant les journées et se faire répondre, les tenir à contrepoids de la journée, de ce qui se passe autour.
Éric De Luca, on a parlé de votre expérience très physique de lecteur et qui est votre autre moi que celui de qui écrit. Et pourtant, vous avez commencé d'écrire très jeune. Vous racontez dans Le Plus et le Moins, la première dissertation dont le sujet c'est les animaux, c'est ça? Il y a une impulsion à ce moment-là qui étonne tout le monde. Et est-ce que cette impulsion-là, ça vous étonne aussi à ce moment-là?
J'étais un mauvais élève. J'étudiais beaucoup, mais j'avais des mauvais résultats. Et quand il y avait la composition en classe, avec le titre de l'argument, j'arrivais jamais à la suivre. Je sortais hors de l'argument. Toujours, c'était ma... Mais un jour, il avait offert à la classe un thème libre. Dès que nous commençons à étudier les fables de Phèdre, alors on disait, inventez une fable comme celle de Phèdre. Ah, quelle... J'ai découvert la liberté et le bonheur de pouvoir inventer. Là, je ne pouvais pas sortir du thème, parce qu'il n'y avait pas de thème. Le thème, c'était le mien, donc je ne pouvais pas sortir. Et donc j'ai écrit cette composition sur des animaux, sur une plaine africaine, la poussière, les galopes, comme ça. Je me souviens d'avoir écrit avec légèreté et enthousiasme. Et j'ai même gardé une copie pour l'amener à la maison. J'ai consigné entre les premiers, dès que j'étais toujours le dernier, parce que j'essayais de étirer le plus possible les dernières lignes nécessaires à faire le minimum obligé. Et le résultat était que j'avais copié.
C'est ça, vous avez été accusé de plagiat.
Ah, j'avais copié. Et maintenant, je sais qu'on peut dire qu'on copie de la vie, de ce qu'on regarde à l'extérieur. On peut employer ce verbe abusif. Illégal. Je sais que je copie la vie quand j'écris. Mais à l'époque, il ne voulait pas entendre ça. Il voulait dire que j'avais triché. Et alors, c'était une accusation qui m'a donné comme réaction le silence. J'ai encaissé l'accusation sans réagir. Mais dans moi, c'était ouverte une fissure qui est devenue large comme un abîme dans le temps entre moi et l'autorité. C'est écroulé dans ce moment-là mon respect pour l'autorité, a commencé à se détruire. Et ça a été l'effet de ma première écriture libre. Mais j'ai su que l'écriture était exactement ça, était cette possibilité de liberté. Pas simplement de m'isoler comme lecteur de tout le monde autour, mais d'être libre dans l'acte de l'écriture.
Liberté, et aussi, vous dites, faire de l'écriture le corps du délit.
Liberté, c'est pour moi pas un catalogue de droits à jouir. Liberté, c'est le vide devant. C'est le désert devant. Liberté, c'est celle des Hébreux qui franchissent la mer Rouge, et la mer Rouge se renferme à clé arrière d'eux, et ils se trouvent dans la vastité du désert à inventer le jour par jour de l'exil, de l'émigration. Ça, c'est la liberté. La liberté peut devenir insupportable, terrible, épouvantable. On peut se désespérer de la liberté. Dans cette histoire ancienne, maintes fois dans le désert, il désire revenir en Égypte, dans l'esclavage d'Égypte. Mais il ne peut pas, il doit aller en avant. La liberté, c'est ça. Il n'est pas possible de revenir sur ses pas. Quand je suis sorti de ma maison et j'ai fermé la porte arrière moi, je savais que c'était la liberté, c'était l'abîme de la première marche en descente, loin de la maison. C'était un abîme. Je me plongeais dans cette liberté qui pour moi avait tout simplement la volonté de me détacher, d'un détachement. C'était pas un champ ouvert, c'était le mystère devant, l'invention du jour par jour. Donc la liberté est, en écriture est ce champ ouvert où on peut s'égarer, mais qui a le bon effet de tenir compagnie. C'est un égarement qui, pour moi, a été la meilleure compagnie.
Vous avez... À partir de ce moment-là, toujours écrit. Mais est-ce que vous pensiez à publier les textes que vous écriviez ou pas du tout? Vous écriviez uniquement pour ce territoire-là de liberté? Vous pensiez à la publication ou pas du tout?
Non. Non, parce que j'écrivais des histoires miennes, des histoires qui regardaient mes alentours, mes personnes. Donc pour moi, c'était des histoires qui n'avaient aucun intérêt pour les autres. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Je continue à écrire des histoires qui regardent ma vie, qui regardent mon expérience personnelle, individuelle. Je ne comprends pas pourquoi ça marche avec un lecteur. Je ne serai pas le lecteur de moi-même. Je sais tout simplement que quand je termine une page, je la consigne, je sais que je ne la sais pas écrire mieux. Donc j'ai un sentiment de tranquillité. Je suis tranquille avec ma page. Je sais que c'est celle-là. Je n'ai pas des moyens, pas des soupçons de pouvoir la faire mieux. Mais sinon, c'est une... je ne pensais pas de publier. La publication s'est produite par hasard. J'étais à l'époque à Milan, dans le 89. J'étais à l'époque à Milan, j'étais à la suite d'un procès judiciaire. Et j'étais hôte d'une amie, une ex-camarade, un ancien camarade de Lotta Continua, qui venait d'être embauché comme employé à la maison d'édition Feltrinelli en Italie. Et donc, elle, pendant une de ces séances que je suivais à ce procès, elle a pris le manuscrit que j'étais en train de relire, recopier, changer, comme ça. Elle l'a envoyé à faire lire à la maison d'édition. Et je me suis trouvé un jour avec une offre de publication de ce premier livre qui, pour moi, c'était rien du tout. Je ne changeais rien dans ma vie. Je faisais l'ouvrier à l'époque et j'ai continué à le faire pour autres 7 ans. Donc, ce n'était pas une solution. Mais m'a donné la possibilité d'offrir à mon père une variante de la vie de son fils. Son fils égaré. Donc, exactement l'année avant qu'il mourait, j'ai pu lui offrir ce livre qui était non ora non qui, pas ici, pas maintenant. Et il était complètement aveugle. À l'époque, il a ouvert le livre, il a foulé, mis le nez dedans, dans la asselle des pages. Comme ça, pour... C'était une... Je suis arrivé à temps pour lui faire entrevoir une autre possibilité, une variante du mode d'emploi de la vie de ce fils qu'il avait perdu et cherché de suivre dans les égarements. Et à la fin, il est venu mourir chez moi.
Et vous avez parlé ensemble de ce texte ?
Il l'avait déjà lu, il l'avait déjà entendu lire par ma mère, parce que c'était une histoire que j'avais leur offert des années avant, en revenant pour quelques jours de Noël à la maison. Et donc, mon cadeau était ce texte que j'avais terminé.
Éric Douluca, est-ce que vous considérez que le livre... Enfin, vous avez évoqué le fait que la lecture établissait une certaine distance. Est-ce que l'écriture et le livre établissent aussi une distance avec l'autre? C'est-à-dire que permet, par cette distance-là, le dialogue et l'adresse à l'autre?
Je dirais plutôt que permet l'isolement. Permet l'isolement de la personne qui lit. L'isole de tout ce qu'il y a autour de lui.
Mais vos livres à vous, ceux que vous écrivez, est-ce qu'ils vous permettent de vous adresser à l'autre? Comme « Pas ici, pas maintenant » qui est une sorte d'adresse à votre mère. Est-ce que c'est une manière d'établir un dialogue autrement avec l'autre?
Oui, c'est ce genre d'écriture, comme les lettres, comme les cartes postales, prévoit une distance. Donc on écrit pour envoyer de cette distance le message à la personne. Mais le moment où j'écris une histoire, c'est aussi pour me raconter une histoire. C'est un acte aussi égoïste. C'est curieux de dire, mais comme tu racontes une histoire, tu la connais déjà, l'histoire que tu veux te raconter. Pas exactement. On connaît ce qui émerge, l'immersion de cette histoire, la chose qui est à la forme d'un souvenir. Mais en écrivant, on sort l'histoire elle-même, avec des nouveautés que je ne connaissais pas dans la page. Il sort et donc c'est l'écriture aussi qui elle-même m'aide à trouver des passages de l'histoire que au moment où j'ai commencé, au moment du souvenir, je me souviens, je n'avais pas. Donc c'est d'abord l'expérience heureuse de se raconter une histoire, de reconnaître ses possibilités, ses, la sortie de personnes que j'avais oubliées, qui deviennent des personnages pour qu'il les lit. Donc c'est un acte égoïste, renfermé dans moi-même, mais aussi un acte de possible possibilité de rejoindre quelqu'un de l'autre côté de cette distance. Je n'ai pas l'idée que j'ai le mot public. Vous avez un public? Non, j'ai pas un public. J'ai un lecteur qui est une lectrice qui est au-delà de cette distance. Toujours entre un lecteur et un écrivain, il y a un rapport un à un. C'est dualiste, la relation. C'est impolitique, parce que la politique commence de trois personnes à nous. Mais on reste deux, un qui lit et un qui écrit.
C'est le contraire de un, c'est un des titres de vos livres.
Le contraire de un, exactement le deux. Ce n'est pas le double de un, mais le contraire de la solitude de la personne. Et forcer la solitude pour quelqu'un qui a une bonne capacité d'isolement comme moi, forcer l'isolement et la solitude, c'est écrire. Donc, imaginez d'avoir un accueil loin d'où je suis, loin du temps et du lieu où je suis. Pas trop loin du temps, hein, parce que je ne me prénote pas, je ne fais pas des réservations pour le futur. Je ne suis pas intéressé aux générations futures. Ils auront leurs problèmes et leurs écrivains. Je reste lié à mon temps et à mon lieu.
Merci Eri De Luca et à demain soir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Delphine Jaffet avec Eri De Luca. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, réalisation Christine Digère, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.